Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, elle s'appelle Ndaye Fatou Khan. Elle vient d'écrire un roman qui s'intitule Le malheur de vivre chez l'Harmattan. C'est avec elle que nous allons revenir sur 7 jours d'actualité, avec bien sûr la rédaction. Elle représente en quelque sorte une nouvelle génération, la nouvelle génération, et son regard sur le monde tel qu'il va ne manque pas d'intérêt. Bonjour Fatou Khan.
Bonjour Monsieur Deldic et bonjour à tous les auditeurs de Une semaine d'actualité. C'est avec un grand plaisir que je suis ici aujourd'hui pour parler non seulement de l'actualité africaine et internationale, mais aussi de mon premier livre qui s'intitule Le malheur de vivre, que je viens de publier aux éditions L'Harmattan.
Eh bien voilà, ça commence bien, vous avez tout dit, on peut terminer l'émission. Merci Fatou Khan. Alors je précise qu'on peut podcaster ce magazine sur le site de la radio, www.rfi.fr. Et à propos d'Internet, vous appartenez à la génération
oui.
Internet, hein.
Carrément, je suis la génération Y. Donc, je suis née quand l'Internet a effectué un grand boom, avec le développement de l'Internet et des technologies, surtout en Afrique, où tout le monde est hyper connecté. Donc, c'est pourquoi je tiens un blog depuis bientôt 6 ans, Ma Petite Bulle. Un blog généraliste où je parle de tout, je fais de nos deux lectures, je parle des albums qui m'ont plu, je parle de politique, de faits de société, mais aussi de petites chroniques.
Et, Ma Petite Bulle, hein, c'est
voilà,
le titre
Ma
du
Petite
blog.
Bulle, où je me retranche pour donner mon regard sur le monde qui m'environne. Donc c'est avec, puisque mon lectorat s'élargissait et de plus en plus de gens me lisaient, c'est ainsi que j'ai été amenée à réfléchir à ce projet de livre.
Le malheur de vivre, c'est une histoire d'amour qui, comme toutes
qui
les histoires
mal,
d'amour,
oui.
finit mal. Hein,
Tragique,
c'est ça
ouais. Donc, c'est une histoire d'amour. La trame principale est construite autour de l'histoire d'amour entre Ousmane et Sakina, mais il n'y a pas que ça.
On va entre dire Dakar
que,
et Paris.
Voilà, ce livre est à la croisée du chemin. J'ai voulu faire un parallèle entre tradition et modernité. Donc, la vie que j'ai eue en Afrique, au Sénégal, mais aussi la vie que j'ai eue à Paris. Donc, c'est un peu le melting pot de tout ça.
Parce que vous-même, vous vivez entre Paris et Dakar.
Oui.
Alors parlons tout de suite, je suis sûr que ça va vous intéresser, Ndaye Fatou Khan, de la Coupe du Monde de football,
oui.
comme une sorte de parenthèse dans notre résumé de l'actualité internationale, avec ceci.
Oh là là là, superbe.
La frappe du gauche.
L'angle était fermé, il a tenté sa chance, ben oui, pourquoi pas.
7-0 pour l'Allemagne face au Brésil.
Alors vous les avez sans doute reconnus, Olivier Pron, Eric Mamrut, nos envoyés spéciaux lors de ce match, cette demi-finale qui est entrée désormais dans la légende de la Coupe du Monde, 7-0 puis finalement 7-1 pour l'Allemagne face au Brésil, un naufrage, il n'y a pas d'autre mot, mardi à Belo Horizonte, la mal nommée et un pays sous le choc, Olivier Pron.
C'est une humiliation, il ne faut pas avoir peur des mots. L'Allemagne a humilié le Brésil chez lui. C'est une énorme claque, compris 200 millions de Brésiliens ce mardi soir. On pourrait même dire 7 claques. Une à chacun des buts inscrits par une Nationalmannschaft absolument irrésistible et qui frappe un coup énorme en vue de la finale dimanche au stade Maracana de Rio. Après l'ouverture du score de Müller dès la 11e minute, les hommes de Joachim Löw vont terrasser irrémédiablement la Seleção en 6 minutes, de la 23e à la 29e. Klose signe son 16e but en Coupe du Monde, nouveau record. Puis Kroos y va de son doublé avant que Khedira ne permette à l'Allemagne de mener 5-0 à la pause. Du jamais vu au pays où le football est une religion. Et les larmes des supportrices brésiliennes coulent encore en deuxième période quand Schürrle frappe de nouvelle fois 7-0 avant qu'Oscar, dans les dernières secondes, ne sauve ce qu'il reste d'honneur aux Auriverde. 7-1, score final impensable, n'est pas allemand. La Mannschaft file à toute allure vers son 4e sacre mondial et il faudra être très fort, très solide pour l'arrêter dans ce qui sera la 8e finale de son histoire.
Les Allemands donc qui joueront en finale demain contre les Argentins qui se sont qualifiés eux mercredi soir aux dépens des Pays-Bas dans un match terne qui s'est terminé avec des tirs au but sur la liesse à Buenos Aires, Jean-Louis Bûcher.
Concert de klaxons et des centaines de milliers de personnes dans les rues de tout le pays, malgré le froid de l'hiver austral. C'est ainsi que les Argentins ont fêté la qualification pour la finale du Mondial. Drapeau en main, Delphine est émue, mais ne doute pas. Dimanche, l'Argentine sera championne du monde.
Nous sommes heureux, c'est la fête dans tous les coins de rue. J'ai toujours pensé que nous allions gagner. La coupe est à nous. L'Allemagne a impressionné face au Brésil, mais l'Argentine n'est pas le Brésil. On va gagner 3-2.
Et vamos a ganar. 3-2.
Même confiant chez Juan José, l'Allemagne ne fait pas peur.
Todo el equipo estuvo muy confiado.
Toute l'équipe a joué en confiance pendant le match. La défense a bien contré Robben. C'est une victoire très importante. Tous ont réussi leur tir au but. Le gardien Romero, que beaucoup critiquaient, a fait un très bon match. L'Allemagne n'a pas idée de qui elle va affronter maintenant. Parce que tous nos joueurs seront mentalement à 100%. Pour moi, ce sera 2-1, avec un but d'Higuain et de Messi.
Un gol d'Higuain et un gol de Messi.
L'Argentine rêvait d'une cinquième finale. Maintenant, elle croit un troisième titre, après ceux de 1978 et 1986.
Sept jours dans le monde.
Avant de vous écouter à nouveau, Ndaï Fatou Khan, partons maintenant pour le plus grand pays musulman du monde, l'Indonésie. Près de 190 millions d'électeurs dans cet immense archipel de quelque 17 000 îles et îlots étaient appelés à choisir leur président. Correspondance mercredi de Cléa Broadhurst.
Les bureaux de vote éparpillés sur le territoire gigantesque de l'archipel ont ouvert dès hier en Papouasie notamment et ont fermé à 1h de l'après-midi. Les personnes ayant voté sont sorties avec le doigt violet ou bleu, cette tache d'encre prouvant qu'ils y ont participé. Les Indonésiens avaient le choix entre deux candidats choisis en avril dernier lors des législatives, écartant ainsi la possibilité d'un second tour. D'un côté, Prabowo Subianto, représentant du parti Gerindra et l'ex-gendre de l'ancien dictateur Suharto. Un candidat issu du milieu militaire, il représentait la vieille Indonésie et disait vouloir diriger le pays avec une poigne de fer. De l'autre, le grand gagnant, Jokowi, représentant du parti démocratique indonésien de lutte et gouverneur actuel de Jakarta. Une figure plus austère qui semble briser les clichés de personnalités corrompues attachées aux hommes politiques en Indonésie. L'archipel a été gouverné pendant 10 ans par Susilo Bambang Yudhoyono et s'apprête à changer de cap. Jokowi et son vice-président Yusuf Kalla prendront officiellement les rênes du pays à la fin de l'année.
Et il y a une confusion quant au résultat final, c'est à suivre dans nos journaux. Une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Ndaï Fatou Khan, qui vient d'écrire Le malheur de vivre. Je suis sûr que le football vous intéresse.
Mais même si on n'est pas très branché foot, on voit que c'est la Coupe du Monde, on est obligé de suivre l'actualité et de savoir que les matchs qui se passent. Et j'ai été particulièrement attristée par ce qui est arrivé au Brésil. On va dire que c'est un vrai massacre qui a été battu 7-0 par l'Allemagne. Et d'après ce que j'en sais, l'Allemagne, c'est une équipe très rigoureuse, très tactique. Et je pense qu'elle a de fortes chances de gagner la finale de dimanche.
Ah, c'est, vous voyez les Allemands gagnants.
Je pense qu'ils vont gagner, ouais.
Nous verrons demain. Qu'est-ce qui vous a, là, je reviens à votre livre, Fatou Khan, conduit à passer du blog au livre, qui doit paraître terriblement, j'allais dire ringard, mais vieux pour vous, l'objet livre.
Vieux, oui, parce qu'on voit de plus en plus, surtout les jeunes de ma génération, ils sont plus branchés e-book, livres numériques. Mais moi, j'ai été très tôt initiée à la lecture par mon père. Donc j'ai très tôt eu des livres et les livres m'ont accompagnée durant toutes les étapes de ma vie. Et après, je commençais à écrire des articles qui sont un peu la continuité de mon amour pour la lecture. Et puis après, plus mon lectorat s'élargissait. Donc j'ai dit, pourquoi pas écrire un livre? Ce serait un peu la matérialisation de ma passion pour les mots. Mais j'ai été influencée aussi par la première génération d'auteurs africains, qui sont des grands-pères pour moi, hein. Enfin, surtout Sarah Médoukane.
Vous avez notamment un grand-père célèbre.
Oui, Sarah Médoukane, ouais. Donc lui, qui m'a notamment son ouvrage « L'aventure ambiguë », qui est un livre rempli de leçons de vie. Un livre traditionnel, mais aussi moderne. Donc j'ai été influencée par lui, parce qu'en fait, j'ai voulu convoquer des valeurs qui me semblent un peu déphasées de nos jours, surtout les jeunes africains, qui sont de plein pied dans la modernité, mais qui réfutent leurs traditions. Donc moi, j'ai voulu reconvoquer, rappeler ces traditions pour leur dire que ces traditions ne seront jamais passées de mode, où que l'on soit dans le monde, même si on ne vit pas en Afrique. Il faudra toujours convoquer ces valeurs-là qui sont un peu le socle qui nous définit en tant qu'individu.
Avec l'amour toujours.
Oui. Ouais, parce que cette histoire d'amour est une histoire qu'on pourrait vivre partout. Entre Sakina, une jeune fille de bonne famille qui vit en France, qui va au Sénégal, qui rencontre Ousmane, un jeune boy Dakar, qui va la travestir. Donc cette histoire-là, on la voit de plus en plus, ses parents qui s'opposent au mariage parce qu'Ousmane n'est pas un jeune qui mérite leur fille.
Un bon parti, comme
voilà,
on dit.
Un bon parti. Donc c'est ce mix-là que j'ai voulu reconvoquer dans le livre.
Et j'ai voulu à la fois parler d'amour et de haine, hélas, avec l'actualité dans cette émission.
Mmh. Une semaine d'actualité.
Et la haine donc, c'est-à-dire des affrontements violents entre le Hamas et Israël, avec d'un côté des tirs de roquettes en direction du territoire israélien et de l'autre des bombardements dans la bande de Gaza. Plus de 100 morts à ce jour. Vous avez pu sur RFI écouter les reportages de la rédaction tant en Israël qu'à Gaza. Écoutez ce que disait lundi Muriel Paradon à Jérusalem.
L'armée israélienne a mené des raids tôt ce matin sur Gaza en représailles à des tirs de roquettes sur le sud d'Israël. 25 roquettes et obus de mortier ces dernières 24 heures. La situation ne s'est donc pas calmée sur ce front de Gaza. Vendredi dernier, on parlait d'une trêve éventuelle entre Israéliens et Palestiniens avec une médiation égyptienne, mais visiblement ça n'a rien donné. L'armée israélienne se contente pour l'instant de frappes ciblées. Il n'y a pas d'intervention massive. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, tergiverse. Il prône à la fois la retenue pour ne pas déclencher un conflit généralisé, mais il est pressé par l'aile la plus à droite de son gouvernement d'agir plus fermement. Par la population du sud d'Israël aussi, exaspérée de vivre au rythme des sirènes, prévenant l'arrivée des roquettes. Plusieurs habitations ont été touchées, même s'il n'y a pas eu de blessés. Hier, le maire de Sderot, une ville de 24 000 habitants, appelait à une intervention terrestre à Gaza pour éliminer, je cite, tous ceux qui veulent tuer des Israéliens.
Et à Gaza donc, ces bombardements ont fait beaucoup, beaucoup de victimes chez les femmes et les enfants, notamment. Reportage jeudi de notre envoyé spécial, Daniel Vallot.
Une nouvelle victime dans les bombardements israéliens. Devant l'hôpital Al-Shifa, les secouristes s'affairent autour du blessé. À l'intérieur, les proches attendent avec anxiété le verdict des médecins. Ce père de famille accompagne son fils, touché par une frappe, alors qu'il travaillait dans une ferme de Jabalia.
C'est un F-16, un avion de chasse qui a tiré sur la ferme. Il était en train de travailler avec son frère et une autre personne. Maintenant, il ne peut plus bouger ses jambes et sa colonne vertébrale est brisée. En tout cas, c'est ce qui ressort du premier examen.
Dans la même salle, deux femmes viennent d'apprendre le décès de leur frère, mortellement touché dans la nuit par une frappe israélienne. Le docteur Saabani, responsable des urgences, assiste impuissant à la scène.
Nous manquons d'équipement médical et de médicaments. Et si la situation se prolonge, si les bombardements continuent, ce sera horrible. Nous ne savons pas comment nous pourrons accueillir les patients, car l'hôpital est déjà saturé.
Face à l'afflux de blessés, les urgentistes de l'hôpital partent au plus pressé. Pour les cas les plus graves, disent-ils, nous n'avons qu'un espoir, pouvoir les évacuer vers l'Égypte par le terminal de Rafah.
La situation est évidemment à suivre dans nos journaux. Vous avez été nombreux à réagir, nous alertant notamment sur le sort de la population à Gaza, qui se résume en un mot, souffrance, et sur l'indifférence de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale. On reparlera du Proche-Orient samedi prochain avec notre invitée, la journaliste Katia Clarence. Suite d'une semaine d'actualité, et partons cette fois pour l'Ukraine d'Aïfatou Khan. Nous voyageons toujours beaucoup dans cette émission pour parler de la situation où les forces gouvernementales ont repris du terrain, reconquis des territoires sous contrôle, jusqu'ici des séparatistes pro-russes. Correspondance de Sébastien Gobert, lundi.
À Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinivka et ailleurs dans l'est de l'Ukraine, on distribue gratuitement du pain, du sucre ou encore des pommes de terre. Les premiers camions d'aide humanitaire dépêchés par le gouvernement ukrainien ont déjà atteint les anciens bastions fortifiés des rebelles. Le président Petro Poroshenko a promis un effort national pour reconstruire une région sinistrée et faire en sorte que les enfants puissent se rendre dans leurs écoles pour la rentrée du 1er septembre. Son état-major évoque l'établissement d'un blocus complet des zones encore sous le contrôle des rebelles afin d'en arriver à leur défaite finale. Les insurgés semblent très affaiblis et dénoncent un manque de solidarité de la part de Vladimir Poutine en dehors de ses déclarations de principe. Les insurgés sont néanmoins encore maîtres des grandes zones urbaines densément peuplées de Donetsk et de Lugansk. Ils y semblent bien barricadés et décidés à y rester. Et tant que les forces loyalistes n'auront pas la maîtrise de ces deux capitales régionales, le plan de paix de Petro Poroshenko restera indubitablement lettre morte.
À suivre là aussi dans nos journaux, l'actualité internationale, c'est également l'expulsion par le gouvernement allemand du chef des renseignements américains à Berlin après l'affaire des écoutes de la NSA et le placement sur écoute du téléphone portable d'Angela Merkel.
Une semaine d'actualité.
Alors, je parlais d'amour et de haine, Ndiaye Fatou Khan. Vous, vous parlez d'amour, moi je parle de guerre. C'est la différence entre la romancière et le journaliste?
Malheureusement, ce qui se passe en ce moment, surtout en Palestine et en Israël, les bombardements à Gaza, c'est juste regrettable. Et on a vu qu'il y a eu de lourdes pertes au niveau palestinien. Et l'indifférence de la communauté internationale, personne ne réagit. En fait, c'est qu'on est habitué à tellement de guerres, de conflits qu'à la fin, on se plonge dans une sorte d'indifférence. Et ce n'est pas normal. Parce qu'on a vu de par le monde que les femmes, les enfants sont ceux qui souffrent le plus dans ces genres de conflits-là. Et on doit secourir le peuple palestinien qui souffre le plus, selon moi. On doit leur venir en aide et que ce conflit cesse, que depuis plus de 6 décennies qu'il dure, doit vraiment trouver une solution.
Et je dois dire, Fatou, que nous avons eu beaucoup et nous continuons à avoir beaucoup de réactions en provenance du continent africain. Mmh. Le sort des Palestiniens émeut beaucoup. Oui. Les Africains.
Ouais. Parce qu'on va dire que peut-être qu'il y a un parallèle en ce qui se passe en Centrafrique, au Mali ou au Congo avec ce qui se passe en Palestine. Donc normal qu'on soit ému par ce qui se passe là-bas et on doit les secourir, on doit trouver une solution de sortie de crise à ce conflit qui dure depuis trop longtemps. Et les images qui passent, on les banalise, mais c'est vraiment des personnes qui perdent leur vie. Donc on va vraiment trouver une solution et secourir ces personnes qui perdent leur vie.
Est-ce que la guerre pourrait vous inspirer? En tant que romancière.
En tant que romancière, oui. Parce que j'ai un autre projet de livre qui va venir et je pense que je m'insérerai d'un... Je ne dévoilerai pas tout. Je m'insérerai d'un conflit qui se passe dans un pays d'Afrique et qui dure depuis trop longtemps et qui dont on ne parle pas. Donc, voilà.
Alors, reparlons un peu de votre activité de blogueuse. Là, l'actualité vous inspire, puisque vous réagissez à l'actualité.
Oui.
La politique, notamment.
Oui, la politique, ouais.
Au Sénégal, par exemple.
Au Sénégal, oui.
On va en parler tout à l'heure.
Parce que j'ai été amenée à écrire des articles, notamment sur les inondations, malheureusement, qui ont eu lieu chaque année au Sénégal. Et j'avais écrit un article qui s'intitulait « Après la pluie, la désolation ». Parce qu'on voit souvent au Sénégal, dans les banlieues, il y a des maisons qui sont construites dans des nappes phréatiques. Et à chaque fois qu'il y a des pluies, les maisons sont inondées. Et ça, depuis, le gouvernement tente de trouver des solutions. Mais à chaque fois, on voit la même chose et il n'y a pas encore de solution.
Ah, je reviens à cette vocation de romancière, Fatou. Vous vous êtes orientée vers une activité qui n'a rien à voir avec la littérature, parce que vous êtes diplômée d'une école de transport en logistique internationale.
Mais c'est parce qu'en fait, j'ai eu un bac littéraire, mais à ascendance économique, un bac ES, l'équivalent d'un bac ES au Sénégal. Et après, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Et ensuite, j'en suis sortie diplômée d'un double master en transport et logistique. Mais parallèlement à cela, je continue à écrire. Donc, c'est pourquoi mon activité d'apprenti écrivain ne gênait en rien mes études de commerce. Donc, je faisais les deux sans problème.
Et votre grand-père, cher Hamidou Khan, donc, vous pousse?
Oui, parce qu'il a été l'un des premiers.
C'est lui qui vous a poussé ou vous avez pris la décision d'écrire sans lui demander quoi que ce soit?
En fait, oui. Au début, il a été au courant parce que je lui ai dit que j'écrivais un livre et il m'a encouragé. Il a eu les premiers jets et il a eu à faire la préface, donc il m'a beaucoup, beaucoup encouragé.
Il a corrigé? Il a rajouté des choses?
Non. Il a juste rédigé la préface, mais il m'a laissé le libre arbitre quant à l'histoire et la trame.
Alors, on va partir pour l'Afrique dans quelques minutes, après le flash, dans un instant. Ce livre est intéressant aussi parce qu'il est également entre deux rives, dirais-je. Hein, le portrait de cette jeune femme est le portrait d'une jeune femme qui est à la fois franco-sénégalaise,
oui. Parce que je voulais
française et sénégalaise.
Ouais. En fait, je voulais créer comme je l'ai dit tantôt, un parallèle entre les deux mondes. Pour dire que on peut être traditionnel, on peut être fier de sa culture, mais aussi faut s'inspirer de la modernité. La modernité n'est pas si mauvaise que ça, parce que j'entends souvent qu'ils disent non, il faut qu'on soit fier de nous, faut réfuter la modernité, mais non, on peut pouvoir puiser dans la modernité. Oui. Mmh. On peut pouvoir puiser dans la modernité, puiser dans la tradition, la langue française, mais aussi être fier de soi. Donc, toujours essayer de créer un mix entre tradition et modernité.
Ndiaye Fatou Khan, nous allons marquer une pause donc pour écouter quelques informations de ces dernières heures. On ira sans doute au Proche-Orient et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.